Et donc, pour rappel, c'était le 22 mars 2016. Il y avait, tôt le matin, aux alentours un peu avant 8 heures du matin, deux explosions quasi simultanées avec quelques minutes de décalage à l'aéroport de Bruxelles National et dans la station de métro Malbec. Le bilan était extrêmement lourd, 32 morts. Et donc, hier et tout le week-end ont eu lieu des commémorations et merci déjà à elle d'être avec nous ce matin. Nous sommes avec Maître Valérie Gérard, avocate, qui a participé au procès de ces attentats et qui est spécialisée dans les indemnisations aux victimes. Bonjour Maître Gérard.
Bonjour.
Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Je sais que ça ne doit pas être spécialement simple pour vous, puisque ces attentats ont traumatisé la population belge dans son entièreté. Alors, racontez-nous un petit peu votre 22 mars à vous. Est-ce que 22 mars 2016, bien sûr. Est-ce que directement on a fait appel à des avocats? On va bien sûr avec vous voir le volet selon l'angle du procès. Est-ce que ça a pris quelques jours avant que tout se mette en place ou bien ça a été immédiat?
Alors, au lendemain des attentats, la plupart des victimes étaient complètement perdues. Ça a mis plusieurs années avant que les victimes, que plusieurs victimes ne trouvent leur chemin vers l'association Life for Brussels que je représente. L'association Life for Brussels, en tant que telle, s'est constituée très rapidement après les attentats de fait. Et puis, il a fallu aussi attendre quelques mois avant que ça ne devienne vraiment juridiquement une ASBL qui avait pour vocation d'aider les victimes des attentats. Et le suivi en tant que tel des victimes a aussi mis un temps considérable. Dans un premier temps, la présidente de l'association avait soutenu par différentes actions, différentes démarches les victimes. Elle allait rendre visite aux victimes hospitalisées. Elle avait des partenariats avec plusieurs entreprises ont apporté des cadeaux aux victimes. Elle a commencé à organiser des réunions des victimes. Donc tout ça s'est fait très très progressivement avant d'en arriver vraiment à un volet plus juridique où les victimes ont demandé à pouvoir être assistées d'un point de vue civil, mais aussi d'un point de vue pénal. Et donc, j'ai, dans un premier temps, commencé à travailler seule pour l'association. Et puis, progressivement, je me suis retournée vers plusieurs avocats pour le volet civil comme pour le volet pénal pour pouvoir assister le nombre des victimes de l'association qui devenait de plus en plus important.
C'est vrai, et c'est bon de le rappeler aussi. Dans un premier temps, les politiques ont brillé par leur absence, je dirais, si ce n'est la famille royale, puisque c'est le roi Philippe lui-même avec son épouse, la reine Mathilde, qui ont été au chevet de certaines des victimes qui avaient pu survivre à ces attentats. Alors, justement, comment, de votre point de vue, peut-on expliquer le délai qu'il y a eu entre les attentats et le début des procédures d'indemnisation, puisque, je le rappelle, c'est vraiment sur ce volet-là que vous avez axé votre action.
Alors, le délai pour certaines d'entre elles, parce que ça ne concerne pas toutes les victimes, a été très long, tout simplement par manque d'informations. Au lendemain des attentats, et beaucoup de victimes l'ont rappelé, notamment lorsqu'elles ont été entendues dans le cadre du procès d'assises, mais sur ces 10 années, il y a un nombre très important de victimes qui ont eu l'occasion de le rappeler également. Elles se sont senties abandonnées. Abandonnées parce que il n'existe pas en Belgique, il n'existe pas de fonds permettant l'indemnisation des victimes, et donc il n'y avait pas d'interlocuteur unique vers lequel les victimes pouvaient se retourner. Elles ont été confrontées à une multitude de procédures auprès des compagnies d'assurance, de la Commission pour l'aide financière. Un nouveau statut avait été créé au lendemain des attentats avec un nouvel interlocuteur. Et puis, il y avait également le volet qui concernait, pour les victimes les plus atteintes, le SPF handicap, mais aussi tout le volet pénal qui allait venir s'ajouter. Donc, des procédures très complexes, même pour des juristes, auxquelles les victimes ont été confrontées. Donc, certaines d'entre elles Et malheureusement, c'est souvent les plus atteintes physiquement, ont pu être orientées très rapidement parce qu'elles ont été reprises sur des listes de victimes, parce qu'elles ont pu être orientées rapidement vers des services d'aide ou d'accueil des victimes qui ont pu leur dire qu'il y avait des déclarations, ou à dire à leurs proches qu'il y avait des déclarations de sinistre à faire auprès des compagnies d'assurance. Mais d'autres ont mis beaucoup plus de temps. On parle souvent des victimes invisibles. Pourquoi? Parce que c'était celles qui n'étaient pas nécessairement atteintes physiquement, mais qui ont subi un traumatisme qui s'est inscrit sur la du durée et qui les a empêchées d'agir, empêchées de pouvoir d'abord prendre conscience qu'elles étaient elles-mêmes victimes et des conséquences dommageables du traumatisme sur leur vie, mais aussi difficile pour elles de pouvoir chercher de l'aide, frapper aux portes, savoir qu'il fallait se retourner vers des compagnies d'assurance. Et donc ça a pris beaucoup plus d'années parce que justement, il n'y a pas eu un guichet permettant aux victimes des attentats du 22 mars de pouvoir être informées de leurs droits et des procédures à accomplir.
Bien, alors justement, ça c'est une des pierres d'achoppement, je dirais. Le temps que ça a pris, on sait aussi, et il faut rendre à César ce qui est à César, c'est que la Belgique n'était heureusement pas habituée. Ça a été un fait sans précédent pour la Belgique, donc elle n'était pas armée, je dirais, d'une certaine manière, pour réagir dans l'immédiateté face à des événements tels que ceux-là. Vous parliez des victimes, je voudrais, vous êtes partie civile pour les familles de victimes, en plus des victimes elles-mêmes. Les familles sont des victimes collatérales, même si elles étaient chez elles tranquilles et qu'elles étaient à des milliers de kilomètres de s'imaginer l'horreur qui allait se produire. Comment ça se passe? Est-ce qu'aujourd'hui ces familles sont reconnues en tant que victimes? Est-ce qu'elles reçoivent des indemnités? On sait toujours que l'argent ne remplace pas un être disparu, mais en même temps, il faut aussi avoir l'impression d'avoir obtenu justice quelque part.
Oui, votre question est très juste. D'abord, de rappeler qu'effectivement, au-delà des victimes, il y a les proches parce que elles sont souvent très oubliées. Dans le cadre du procès d'assises, notamment, très peu d'entre elles ont souhaité témoigner. Et de mémoire, il n'y en a même eu qu'une seule victime indirecte, donc le proche d'une victime blessée qui a osé prendre la parole. Et c'est souvent très très lourd pour ces victimes parce qu'elles portent tout à bout de bras. En fait, elles portent leur propre traumatisme, souvent qu'elles osent taire parce qu'elles ne se sentent pas légitimes de pouvoir l'évoquer à côté de la personne qui a vraiment été présente sur place. Et donc tout ça est excessivement lourd à porter sur les années, et les reconnaissances ne suivent pas toujours. Alors, est-ce qu'il y a avait aucune reconnaissance des proches de victimes à la suite des attentats? Là, je dirais que non, puisque je dirais plutôt que oui, il y avait une reconnaissance qui était possible parce qu'elles ont la possibilité, depuis déjà 2017, d'avoir un statut de solidarité nationale qui leur reconnaît cette qualité de victime indirecte. Elles ont aussi la possibilité de déposer une demande d'aide auprès de la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence, et elles avaient même la possibilité, si elles démontraient l'existence d'un dommage, de se retourner également vers les compagnies d'assurance. Donc, une reconnaissance de leur qualité de victime, et puis il y en a plusieurs qui se sont constituées partie civile dans le cadre du procès d'assises, qui ont été également reconnues comme ayant subi un dommage en lien avec l'attentat. Donc, une reconnaissance en tant que telle était possible, mais encore faut-il pour celle-ci avoir la possibilité de l'affirmer. Et comme je vous dis, c'est pas toujours évident pour ces victimes indirectes qui portent le poids de leur propre traumatisme, mais qui ne se sentent pas nécessairement légitimes de pouvoir l'affirmer.
Bien, alors on sait souvent et on dit souvent que l'administration est une machine et un rouleau compresseur. Est-ce que et qui prend beaucoup de temps en général, bien sûr, toutes les procédures. Est-ce que on a mis en place en Belgique des procédures accélérées, je dirais, pour justement permettre à toutes ces personnes d'avoir un sentiment d'être soutenues?
Alors, je crois que le problème, c'est pas nécessairement le fait de vouloir accélérer les procédures. Et c'est pas nécessairement dans l'intérêt des victimes d'accélérer les procédures. Parce qu'il y a une réalité qui est celle de leurs séquelles. Et là, je parle des victimes directes, qui doit, lui, être reconnue. Et certaines victimes, par exemple, aujourd'hui, ne sont pas encore consolidées, même 10 ans après les attentats, parce qu'elles subissent encore des opérations. Donc on n'aurait pas su accélérer les procédures de ces victimes pour lesquelles les séquelles sont encore évolutives et pour lesquelles on ne peut pas encore mettre un terme à leur dossier parce qu'elles vont encore subir des opérations. Par contre, une autre réalité, c'est celle de la complexité. Plus il y a d'interlocuteurs, plus c'est complexe et plus nécessairement les victimes vont devoir se soumettre à une multitude d'expertises. Elles vont devoir rencontrer une multitude de sapiteurs, une multitude d'interlocuteurs, et aussi une multitude parfois de procédures lorsque les choses ne vont pas. Et puis quand il y a des procédures d'expertise auprès des compagnies d'assurance, parfois deux compagnies d'assurance différentes, accident du travail et accident à l'assurance soit du métro, soit de l'aéroport, et puis une expertise menée par l'État pour leur reconnaître naissance, éventuellement au droit à une pension, eh bien, il y a parfois des contradictions entre ces différentes expertises et au niveau de leur reconnaissance. Et c'est plus ça qui est très lourd. Ça veut dire que plus il y a d'interlocuteurs, plus elles vont devoir se battre sur leur qualité de victime, sur la reconnaissance de leurs séquelles et systématiquement revivre l'événement traumatique. Donc, je pense que au-delà du fait que les procédures sont parfois longues et qui, indépendamment même de l'existence de ces procédures et qui est parfois dans l'intérêt des victimes qu'elles ne soient pas trop rapides pour qu'on puisse permettre à leurs séquelles d'être consolidées avant d'en terminer, il y a cette complexité qui a été dénoncée par l'association Life for Brussels, qui a également été dénoncée par la commission d'enquête parlementaire et pour lequel on n'a jamais été entendu, puisque à ce jour, il y a toujours un nombre important d'interlocuteurs, même s'il y a eu des réformes, ça n'a pas empêché le nombre d'interlocuteurs, et on n'a toujours pas été vers la recommandation première de la commission d'enquête, à savoir la création d'un fonds d'indemnisation.
Bien, alors le temps est compté, hein, on va devoir terminer cet entretien, on pourrait en parler avec vous longtemps, j'imagine. En un mot, Valérie Gérard, est-ce que ce procès a répondu à vos attentes en définitive? Est-ce que c'est mission accomplie ou bien il y a encore du taf, comme on dit?
Alors, je crois que le parcours des victimes ne s'est pas arrêté au procès. Il s'arrêtera vraiment à la fin de leur procédure civile, mais je crois aussi que ce procès a été très porteur pour plusieurs d'entre elles parce qu'il a permis, à tout le moins, de refermer une partie de ces différentes procédures et d'avoir, pour certaines, à tout le moins également, des réponses, à leurs attentes. Et la justice est passée, et ça, c'était le plus important.
Bien même. Merci infiniment d'avoir accepté d'intervenir dans notre émission ce matin. Je sais que c'est pas toujours évident. Je vous souhaite une bien belle journée, Valérie Gérard. Il est 8h passé de 18 minutes et on va continuer cette matinale, je vais pas dire spéciale, attentat du 22 mars 2016, mais on avait envie de mettre, je dirais, la lumière sur les choses, notamment le procès avec Valérie Gérard, maître Valérie Gérard qui était avec nous il y a une petite demi-heure, et maintenant on va parler d'une association. La première association qui est née à la suite des attentats du 22 mars 2016 avec son porte-parole Gaëtan Meuleman qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin. Je me doute que tout le week-end a dû être assez chargé en termes de commémoration bien sûr, mais aussi et surtout en charge émotionnelle. On reviendra là-dessus avec lui. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin Gaëtan Meuleman. Indépendamment du fait que vous êtes le porte-parole de Life for Brussels, je voudrais quand même revenir aussi sur le fait que vous êtes intervenu spontanément. Vous êtes l'un des premiers sauveteurs, entre guillemets, à arriver sur les lieux. On sait que vous êtes sauveteur d'une certaine manière, mais là, vous étiez en civil et pas du tout en service et vous êtes arrivé sur les lieux à la station de métro Malbec. Alors, dans un premier temps, on va parler de Life for Brussels que vous représentez. Alors, Life for Brussels aujourd'hui, c'est quoi précisément? Et d'abord, bonjour, Gaëtan Meuleman.
Alors, Life for Brussels est une grande famille. C'est d'abord toute une famille. Pour moi, c'est quelque chose d'important. Pourquoi? Parce que l'association reprend plus de 700 victimes 10 ans après. Mais on est une famille. On se comprend tous. Alors, dedans, il y a évidemment les victimes du 22 mars, les familles, mais également les intervenants. Aujourd'hui, on est 10 ans après. La population, bien souvent, la personne lambda me dit, mais ça fait 10 ans, les gars, passez à autre chose. C'est pas possible de passer à autre chose. Ça fait partie de notre histoire, de notre ADN. C'est quelque chose, malheureusement, d'indélébile. Et quand on se retrouve tous ensemble, mais il n'y a pas de jugement. On peut discuter de tout et de rien. Et on a besoin de ça. Pour moi, c'est quelque chose de vraiment d'important. Alors l'association a été pour tous et pour moi en premier, je dirais un soutien, parce qu'il faut savoir qu'effectivement je suis un des premiers intervenants, j'y reviendrai tout à l'heure, mais il faut savoir que je pensais que j'allais bien, que voilà, j'avais survécu à cet attentat, et malheureusement ça, je suis divorcé de ma femme et de mes enfants à cause des attentats à Bruxelles, alors que je pensais que j'allais bien. Et c'est grâce d'ailleurs au service social juif que j'ai rencontré Laurent Evart, qui était assistant social, où j'ai eu mon premier contact. Et là, je me rappelle toujours, je lui explique ma journée le 22 mars. Et quand j'ai terminé mon histoire, il me dit, j'ai vu des policiers, j'ai vu des infirmiers, des ambulanciers, des secouristes. Certains étaient à l'aéroport, d'autres étaient à Malbec. Mais vous avez tous les mêmes mots. Et là, c'est une première claque. On se rend compte que, tiens, je suis pas le seul.
Mais quand vous dites une première claque, ça veut dire, c'est une claque de dire, c'est rassurant quelque part de se dire qu'on n'est pas le seul, on n'a pas l'impression de devenir fou en quelque sorte, ou si on a l'impression, on se dit qu'on n'est pas seul, ou bien c'est vraiment compliqué à gérer ça.
Le problème, c'est que mon entourage, mes amis, moi j'ai perdu beaucoup d'amis, non pas que ce sont eux qui se sont éloignés, c'est moi qui me suis éloigné. Et donc il y a un Gaëtan avant le 22 mars et un Gaëtan après le 22 mars. Je n'avais pas conscience de l'impact des attentats, ce qu'on appelle le fameux stress post-traumatique, quand on n'a jamais été confronté à ça, on ne sait pas ce que c'est.
Et donc. Et en Belgique, certainement pas. Il y a des pays en guerre où on sait que trop, malheureusement, et Israël en est un bel exemple, ce que c'est. Et donc, on le disait avec Maître Valérie Gérard tout à l'heure, c'était inédit pour la Belgique de vivre des événements tels que ceux-là. Alors, on évoquait aussi le silence assourdissant de certains politiques le 22 mars et les jours qui ont suivi. Je le disais à Maître Valérie Gérard que le roi et la reine étaient les premiers à aller au chevet de certaines victimes. Je crois que c'était même pas 48 heures après dans les hôpitaux. Il faut saluer cela aussi, puisque voilà, c'est eux ont eu une réaction, je dirais spontanée, parce qu'elle n'était dictée par aucune directive gouvernementale. Et donc, est-ce que ça fait du bien d'une certaine manière? Est-ce que vous estimez que la Belgique a bien réagi trop lentement dans les temps? Comment est-ce que vous voyez ça avec 10 ans de recul, bien sûr?
Alors, le roi et la reine, chapeau, parce qu'effectivement, il y a eu cette approche extrêmement humaine, empathique. Je pense que c'était quelque chose d'important. Par contre, le politique, on l'a dit, le grand silence. Le grand silence, aujourd'hui, on est 10 ans après, certaines victimes ne sont toujours pas indemnisés. Donc, on s'est battu avec l'association dans le cadre de certains parlementaires pour l'amendement de certaines lois. La création du fameux guichet unique, parce qu'aujourd'hui, c'est un parcours du combattant. Donc, les victimes sont d'abord blessées dans leur chair, certains de manière psychologique extrêmement grave, et puis elles sont de nouveau victimes du système. Un système qui est complètement obsolète, qui est un parcours semé d'embûches. Vous avez 56 personnes à rencontrer. Le MEDEX, pour pas le citer, le MEDEX, médecin contrôle auprès des assurances et l'expertise auprès de l'État, aucune empathie. À la limite, les victimes deviennent suspectes eux-mêmes parce que l'impression de profiter du système, mais non. Mais
la machine administrative qui se met en route.
C'est impossible.
Et donc c'est tout l'intérêt de Life for Brussels et toute l'action de Life for Brussels. Encore aujourd'hui, est-ce qu'il y a des nouvelles victimes qui se présentent aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des gens, 10 ans plus tard, qui vous contactent ou qui contactent des autorités compétentes en disant, comme on voit par exemple avec des femmes qui portent plainte, hein, dans un tout autre registre bien sûr, mais des années plus tard, est-ce qu'il y a encore des gens qui se présentent aujourd'hui en tant que victimes parce qu'elles ont mis le temps avant, un, de le ressentir, deux, de l'accepter, et trois, d'avoir envie de réagir?
Alors, le procès a vu, la médiatisation du procès et des associations ont vu apparaître effectivement de nouvelles victimes. Moi, j'ai une histoire extrêmement particulière. Lorsque j'étais au Justicia, dans les chambres de mise en accusation, donc avant le procès initial.
Justicia, on rappelle à nos auditeurs, c'est l'endroit du procès qui était dans les anciens locaux de l'OTAN, je pense.
De l'OTAN, tout à fait, tout à fait. Et donc, Je suis donc c'est le procès des mises en accusation des deux frères qui ont été acquittés par la suite, mais avant le procès aux assises, et j'ai un monsieur qui est assis à côté de moi, complètement effondré, que je ne connais pas. J'ai dit, monsieur, ça va? Non, ça va pas, ça va pas. Si vous êtes une victime? Non, je ne suis pas une victime. Mais j'essaie de comprendre, je suis le chauffeur du métro. Comment ça, vous êtes le chauffeur du métro? J'ai dit, mais attendez, monsieur, vous êtes une victime, ça. Et donc, ce monsieur aujourd'hui, on a encore discuté, échangé hier sur WhatsApp, il va toujours pas bien aujourd'hui. Donc, lui est persuadé qu'il est responsable de la mort de ses passagers, qu'il a mené ses passagers à sa mort. Donc, il faut le savoir, ça. Il a perdu son épouse aussi. Et donc, ce monsieur aujourd'hui...
Quand vous dites qu'il a perdu son épouse, il a divorcé?
Non, non, il a perdu son épouse, okay. Malheureusement, qui est décédée voilà, d'une maladie. Voilà. Mais okay. Donc, ce monsieur aujourd'hui est complètement diminué, seul. Et à l'époque, il n'avait pas été aidé. Il faut savoir que le lendemain, il a travaillé. Le lendemain, il a reconduit un métro. Il n'a pas eu d'aide, il a été également abandonné. Et donc l'association lui a permis de pouvoir revoir en lui une flamme. Il a été applaudi lors d'un groupe de parole avec toutes les victimes. Et donc ça lui a permis de pouvoir rejaillir. Mais aujourd'hui, il ne va toujours pas bien.
Alors, est-ce qu'il est pris en charge aujourd'hui?
Le système étant défaillant, je n'en sais rien. Il faudra lui poser la question, je n'en sais rien.
D'accord.
Donc, voilà.
Ok, alors, le temps, évidemment, nous est compté. Donc, j'imagine que des cas comme celui-là, et c'est un cas bien particulier, on est bien d'accord, j'imagine que c'est une des raisons d'être de Life for Brussels. Quel avenir pour Life for Brussels? Parce que j'ai presque envie de dire, c'est un petit peu comme nous, quand on mettait une chanson toujours avant la matinale pour que les otages rentrent, on se disait, pourvu qu'on ne l'écoute plus cette chanson. Est-ce que vous avez la même impression de vous dire, pourvu qu'on puisse dissoudre l'ASBL Life for Brussels, ça voudrait dire que tout est terminé et que tout a été mis en place?
Alors, on n'est nulle part, parce qu'aujourd'hui, on doit encore se battre pour la création du fameux guichet unique, qui n'a toujours pas vu jour. Le fonds d'indemnisation, pareil, on n'est toujours pas prêt non plus au niveau de la Belgique, donc il y a un combat politique qui doit encore se mener. L'association est en mode survie aujourd'hui. Il faut savoir que nous n'avons plus aucun subside. Notre seul et unique salarié va être licencié ici fin avril. Et donc hier, lors des commémorations, j'ai pu rencontrer bon nombre de personnalités politiques, même très influents, qui ont eu que des échos des victimes sur le rôle de notre association, en disant, voilà, c'est eux qui étaient à nos côtés, c'est eux qui ont fait le job de l'État. C'est grâce à eux qu'on est là aujourd'hui. Et donc moi, je lance une demande toute particulière aux politiques. Moi, j'ai un rêve, un peu comme VIAS, Sécurité Autoroutière. VIAS n'est pas subsidié, mais je dirais professionnalisé et est financé dans... Ici, je pense qu'on pourrait être associé, je pense, aux maisons de justice, par exemple. On a pu montrer l'expertise à travers Valérie Gérard, l'expertise à travers l'association auprès des victimes, mais qu'on puisse devenir effectivement une ASBL qui devient un pilier en cas de nouvel attentat. Malheureusement, le risque attentat est toujours présent. Je pense à la synagogue à Liège, mais le climat aujourd'hui, que ça soit le conflit au Proche-Orient, mais l'extrême droite, l'extrême gauche, aujourd'hui me fait peur. On n'est pas dans une situation tout à fait sereine, donc le risque attentat est toujours bien présent. Mais demain, on est à la même situation qu'il y a 10 ans dans le cadre de prise en charge administrative des victimes.
Bien sûr. Alors, pour terminer cet entretien, parce que le temps file, Gaëtan Meulemann, vous me confiez hors antenne, et vous aviez envie de lancer un appel, puisque le seul salarié, je dirais, de cette ASBL Life for Brussels va être licencié par manque de moyens, bien sûr, de subsides. C'est un appel que vous avez envie de lancer aujourd'hui?
Oui, parce que les victimes en ont besoin de nous. Je n'ose imaginer devoir annoncer à l'ensemble de toutes les victimes que malheureusement l'association doit s'arrêter par manque de moyens. C'est impossible. Je pense que ce serait la pire trahison qu'on pourrait faire aux victimes. Et donc, oui, je demande aux politiques de prendre leurs responsabilités. Il y a des recommandations qui ont été faites lors de la commission attentat. Rien n'a été fait. Une partie, Valérie Gérard l'a probablement dit, une partie des recommandations ont été faites, l'État se doit de nous soutenir. Pour moi, c'est quelque chose de primordial.
Bien sûr. Ben écoutez, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Nous, en tout cas, si on peut de notre côté faire quoi que ce soit, Radio Judaïka, bien sûr, le fera. Merci infiniment d'être venu témoigner ce matin, Gaëtan Meuleman. J'ai pas envie de dire longue vie à Life for Brussels, parce que on aimerait bien vivre dans un pays en paix et je dirais en toute amitié. Merci beaucoup, beaucoup d'être venu. Je sais que c'est le lundi, lendemain de la veille, et vous n'avez pas fait nécessairement la fête. Hein. Ça a dû être très, très lourd émotionnellement, toutes ces commémorations depuis vendredi et jusqu'à ce matin même. Et bah, à très vite sur cette antenne avec des bonnes nouvelles, je l'espère, Gaëtan Meuleman.
Merci Didier.
Merci infiniment d'être là. Alors Lise, on a évoqué le procès avec Maître Valérie Gérard, on a évoqué Life for Brussels, l'ASBL avec Gaëtan Meuleman juste avant ce rappel des titres, et on va continuer de parler de ce 10e anniversaire des attentats de Bruxelles du 22 mars 2016 avec un invité qui va nous parler de United Hatzalah. Sami Markovic, c'est le chef de ses services de secours Hatzalah en Belgique. Il était à l'aéroport de Zaventem ce jour-là. Il nous raconte son 22 mars 2016 à votre micro.
Sami Markovic, bonjour.
Bonjour, bonjour, comment allez-vous?
Ça va, merci d'être avec nous ce matin. Alors, vous étiez à Zaventem ce jour-là parce que c'est aussi votre travail. Vous avez une agence de voyage, Sami. Racontez-nous comment était l'ambiance à Zaventem il y a 10 ans.
Alors, c'est un des attentats que je ne vais pas oublier. Je ne suis pas sûr si c'est, je ne l'oublie pas parce que c'est à côté de la maison, comme on dit, ou c'est parce que ça fait un impact que je ne veux pas oublier. Mais ce n'est pas le premier attentat. J'étais ambulancier en Israël et j'étais à plusieurs attentats présents. Alors, mais celui-là à Bruxelles, à Zaventem, m'a quand même pris. Ça a commencé à 7h environ, je me rappelle plus exactement à quelle heure, mais environ 7h15 du matin, qu'un copain qui était à Zaventem m'envoie un clip de vidéo. Ça c'est un des clips qui a fait le tour du monde en fin de compte, qui me dit quelque chose s'est passé ici devant mon nez. Je sais pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce que t'en penses? C'est un ballon de gaz. On ne sait pas qu'est-ce que c'est. Et malheureusement, de notre expérience et l'expérience que j'avais déjà, la minute même que j'ai vu cette petite clip, je l'ai dit, ça c'est un attentat. Parle là-bas, enfuis-toi, et directement on s'est mis en route pour aller vers Zaventem. C'est pas à côté de la porte, c'est pas juste deux minutes de route, et le trafic est énorme déjà chaque matin, mais avec ça tout est bloqué. Alors on a la chance que ici chez nous à Hatzalah, en Verse, on part avec les motos. Alors on est vite parti avec plusieurs, on est parti à Zaventem. On est arrivé assez vite, je dois dire. Il y avait derrière nous, à cause du fait, parce qu'on était plusieurs, il y avait plein de policiers et des autres qui savaient pas s'en sortir dans le trafic qu'il y avait, qui nous ont suivis, parce qu'on pouvait ouvrir un peu la route, avec nos motos. On est arrivé là-bas, c'était une petite record pour arriver à Zaventem. Je le souhaite à personne qui doit arriver si vite pour attraper son vol, mais ça c'est malheureusement quelque chose d'autre. On est arrivé là-bas, on était déjà un peu préparé radiophonique, on était déjà un peu préparé pour voir quelque chose qu'on s'attendait un peu que c'est un attentat. Ce n'était pas encore tout à fait confirmé à 100% au moment qu'on est arrivé, mais les gens qu'on est arrivé directement, on pouvait rentrer parce qu'on était ambulancier officiel. On fait partie du 100, 112 aujourd'hui. Alors, on pouvait rentrer, on avait accès, ça, il n'y a pas de problème. On a commencé à travailler, quoi. Toute la journée, on est resté toute la journée là-bas pour aider les gens. On avait aussi une bonne chose qu'on avait, c'était le fait que on parle beaucoup des langues. Et aussi l'hébreu, le yiddish, mais aussi flamand, allemand. On avait quelqu'un qui parlait l'italien. On pouvait aider plusieurs de gens. Ici, entre nous et un collègue qui était là-bas, il y avait un mot arabe qu'on pouvait parler aussi pour aider chacun qui avait besoin, qui était perdu, quoi, qui avait besoin de qu'on pouvait aider, soigner, etc. On était là-bas pendant des heures pour jusque l'évacuement était tout à fait fini. Tout le monde, une chose qui était formidable de nos côtés, qu'on était très, on trouvait ça, qu'on était très fiers de cela que c'était. On était, ça a l'air que dehors de Zaventem, ils ont leur propre ambulance et soins secours et tout ça, naturellement, comme chaque aéroport. Mais nous, on était le premier secours dehors de Zaventem qui est arrivé. Ça veut dire qu'on était vraiment vite sur place. Avec tout notre matériel et tout ça.
Mais Samy, il y avait beaucoup de blessés déjà à ce moment-là. Il y avait beaucoup de gens partout. Racontez-nous la scène. Et surtout, pourquoi on dit aussi qu'il y avait les terroristes étaient encore là dans l'aéroport? Comment ça s'est passé?
Alors, d'abord, la scène que nous avons vue, c'était un peu les gens partout en train d'arriver dans une place qui était nommée comme le place de secours mais pas tout le monde était encore là-bas, mais il y avait un petit hangar qui était nommé pour mettre tout le monde qui pouvait marcher ou qu'on pouvait emmener avec un brancard qui devait pas aller directement. C'est un triage ça s'appelle un triage. On fait une triage des patients. Le triage était où l'ambulance on amenait où l'ambulance. Ils sont directement partis à l'hôpital ou c'était un triage sur place pour encore faire un triage pour voir si c'est des gens qui a besoin d'aide directement. Mais il y avait plein de gens partout. C'était un peu le tout. D'abord, on est rentré, pour là-bas dans cette salle de triage pour voir s'il y avait quelque chose d'urgent ou si on a regardé parce que nous on était déjà en contact avec la communauté et pour ça il y avait un vol de El Al qu'on savait qui était là-bas aussi pour chercher s'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide qui parle pas la langue ou qui a besoin d'aide et aussi pour voir un tête qui reconnaît ça fait du bien quand tu reconnais quelqu'un en un moment comme cela.
Mais ce vol de l'AL, Samy, il n'est pas arrivé, il a été dérouté vers Liège, c'est
ça? Oui, mais le check-in était ouvert et la sécurité était là-bas, le check-in était ouvert, il y avait plein de gens qui étaient en train d'arriver pour faire le check-in, alors ça, il y avait plein de gens, on n'est pas arrivé, naturellement, on est arrivé pour aider tout le monde. Mais naturellement, on était aussi là-bas pour aider les gens qu'on connaissait parce qu'ils avaient besoin d'aide aussi pour savoir qu'est-ce qui se passe et un problème de langue.
Quand on dit, Samy, que les terroristes cherchaient des juifs dans l'aéroport, j'essaie de comprendre. Ils étaient encore dans l'aéroport. Ils se disaient que peut-être s'il y avait ce vol de Tel Aviv, ils pouvaient aussi faire l'attentat à l'endroit où ces gens-là faisaient le check-in ou ça y est, ils avaient déjà été neutralisés.
Alors, honnêtement, je ne sais pas tous les exacts, mais ça a l'air, parce que je connais aussi des gens qui a travaillé à l'aéroport, et ça avait l'air, mais on va prouver ça, est-ce qu'on va le prouver peut-être un jour, mais ça avait l'air que c'était dirigé, c'était, le but était le vol d'El Al, était sur place numéro un pour arriver là-bas. On a une très bonne sécurité, ni seulement de l'État que la Belgique met là-bas des polices, la police un peu plus pour le vol El Al, mais aussi le fait que la sécurité d'El Al est aussi quelqu'un que ils voient des choses, ils sont, ils, probablement, s'ils ont vu qu'il y a des sécurités dès là, je suis sûr que ça a pris, leur présence fait déjà peur pour arriver, et ils ne prennent pas des risques de rentrer plus au front, plus.
Donc vous pensez en fait, Samy, qu'au départ ils visaient le vol de El Al et que comme ils n'ont pas réussi à cause de la sécurité, ils se sont dit bon bah autant faire sauter un autre endroit de Zaventem, ça va bien.
Je ne doute pas, je suis pas, je, vous pouvez pas, vous me pouvez pas convaincre, ce n'est pas le, que ce n'est pas le cas. Mais encore une fois, ça, c'est quelque chose de juridique et plus que les gens qui contrôlent ça. Mais le fait que c'était à ce moment-là, environ cette entrée de l'aéroport, etc., je m'en doute pas que le vol là était pas quelque chose de très intéressant pour eux.
Alors en fait, c'était, si je me rappelle bien, c'est des bombes artisanales qui ont été mises dans le hall des départs de Zaventem. Donc c'est là où il y a normalement, on va dire, le plus de gens qui attendent. Et donc vous avez quand même pu arriver, j'imagine, dans ce hall de départ après les bombings. Et donc c'est là où vous nous expliquiez qu'il y avait le tri, etc. C'était sur place, dans ce hall des départs.
Non, le hall de départ, parce que en fait, numéro un, jamais qu'on essaye toujours que de faire une place dehors du place où ça se passe, pour des raisons de sécurité, etc. Et aussi pour voir un bon vue de savoir qui était aidé, qui passe. Celui-là qui est encore dans la salle, c'est encore quelqu'un qui n'était pas aidé. Alors quand tu déplaces cette salle, les gens que tu veux aider ailleurs, alors ça, c'est plus simple de voir un vue totale pour voir qu'est-ce qui se passe. Alors ça, c'était un peu, maintenant ça a changé un peu l'entrée, alors c'est pour celui-là qui se reconnaît. C'était environ dans où c'était à l'époque le hall d'entrée de El Al à l'époque, il y a 20 ans, 20, 30 ans, il y avait l'entrée de El Al à Zaventem était un autre entrée, plus bas encore. J'ai 30 ans, c'était environ là-bas, c'était la salle qu'on a utilisée. Mais oui, je suis rentré dans le hall pour chercher des gens avec les autres ambulanciers, infirmiers et pompiers et la police. On avait un moment qui était un peu fou parce que il y avait un appel qu'il y avait des gens qui étaient bloqués au moins un là-bas où on arrive. Et un de notre ambulancier et moi-même, on est descendu on a dit sur la radio qu'on va leur chercher, on va leur aider. Et on était en contact en bas au moins un pour aller chercher pour les gens qui étaient encore. Il y avait un entrapment, ça s'appelle, quelque part, des gens qui ne savaient pas sortir. Ils avaient aussi peur de sortir parce qu'ils ne savaient pas s'ils peuvent sortir. Ils étaient en train de se cacher. Alors, on est allé leur chercher. Et dans une fois, il y avait de la police qui est venue, mais ils ont pas, la communication n'était pas à 100%. Alors, la police, en une fois, est venue pour nous chercher avec leurs armes sur nous, parce qu'ils croyaient que nous, on s'était en train de s'encourir, s'enfuir, mais c'était l'envers, on était en train de chercher. Alors, on avait les armes virées sur nous, mais ça, c'était un moment de stress, mais ça a bien passé.
Bon, en tout cas, c'était pour la bonne cause. Il y a 16 personnes qui sont mortes, plus 92 blessés ce jour-là, lors de l'attentat à l'aéroport de Bruxelles. Merci beaucoup, Samy Markovitch, d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Judaïka pour témoigner de ces attentats de Bruxelles il y a 10 ans. Bonne journée à vous et à très vite.
Merci beaucoup. Judaïka 90.2 FM.
Le terrorisme a-t-il muté depuis les attentats de Bruxelles en 2016? C'était la question qui vous était posée. C'est la question que Lise Benkemoun a posée également à Claude Moniquet, expert en contre-terrorisme et co-auteur avec Genoveva Etienne d'un livre intitulé « Comprendre le 7 octobre ». On retrouve l'entretien que Lise a pu obtenir de Claude Moniquet, qu'on salue d'ailleurs.
Claude Moniquet, bonjour.
Bonjour Lise.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Alors, pour cet anniversaire triste, 10e des attentats de Bruxelles, on a demandé à nos auditeurs en question du jour, est-ce que le terrorisme avait muté depuis les attentats de Bruxelles il y a 10 ans? Et leur réponse, Claude, est sans appel. 76% de oui sur Facebook, 88% de oui sur Insta et 50-50 sur X. Donc, a priori, quand même, une grande majorité pour dire que le terrorisme a muté depuis 10 ans. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux?
Oui, bien entendu, le terrorisme a profondément muté depuis les attentats de Bruxelles et de Paris, pour une raison très simple. C'était des attentats qui avaient été commis, enfin pour deux raisons. D'une part, c'était des attentats qui avaient été commis par des groupes à Paris, à Bruxelles, par des groupes qui avaient été formés en Syrie, donc des djihadistes européens attirés en Syrie, formés et reprojetés vers l'Europe. C'est devenu impossible puisque l'État islamique, pour le moment en tout cas, a perdu sa territorialité depuis 2019 et la chute de Mossoul et de Raqqa. Et la deuxième raison, c'est qu'à l'époque, la propagande islamique, comme c'était un modèle gagnant, enfin entre guillemets, l'État islamique, eh bien, ils avaient énormément de facilité à convaincre des gens. Il y avait un effet d'entraînement. Rappelez-vous, la séquence qu'on a connue entre l'attentat du musée juif au printemps 2014 à Bruxelles, premier attentat de l'État islamique en Europe, hein. Et l'attentat de Barcelone en 2017, qui, sauf erreur de ma part, est le dernier attentat en groupe commis par l'État islamique à l'époque. Il y avait des attentats toutes les semaines, parfois plusieurs fois par semaine. La plupart étaient des attentats individuels, mais qui ont fait des dizaines et des dizaines de morts. Oui, pour ces deux raisons, une propagande qui est moins porteuse et surtout la perte de l'État, de la territorialité. La menace djihadiste existe toujours, mais elle a profondément muté.
Alors justement, Claude, depuis 10 ans, on dit qu'il y a un certain nombre de mesures qui ont été mises en place et une approche beaucoup plus collaborative avec un plus grand partage d'informations entre les services, que ce soit en Belgique ou en Europe. Est-ce que c'est effectivement ce que vous avez constaté?
Alors, l'amélioration des rapports dans les services, c'est un mythe dans le sens où tout le monde a l'impression que les rapports ont été très, très mauvais ou inexistants ou faibles avant. C'est faux. La menace terroriste est prise extrêmement au sérieux en Europe par les services de police et de renseignement depuis le 11 septembre 2001. Et il y a une collaboration qui était déjà totalement, qui était quotidienne. Elle est encore plus intense probablement depuis, mais ça ne change pas grand-chose. En fait, ce qui explique que cet attentat puisse se produire, ce n'est pas l'absence de collaboration. C'est la malchance, c'est difficile à entendre, mais la chance et la malchance, ça existe, hein, y compris là-dedans. Et c'est le fait aussi qu'il y a sans doute eu des erreurs opérationnelles des services de renseignement. La collaboration était très bonne et elle est encore meilleure. Mais il y a une chose qui a changé dans la pratique, c'est qu'avant 2014, 2015, avant l'attentat de Paris, la pratique antiterroriste consistait, quand on repérait un suspect, à attendre, de manière à pouvoir voir quels étaient ses liens, repérer éventuellement un réseau et arrêter le plus de gens possible, et surtout saisir du matériel de manière à avoir des éléments qui permettaient d'obtenir une condamnation relativement importante et pas d'envoyer quelqu'un pour un an ou deux en prison parce que ça ne sert à rien. Aujourd'hui, ça a changé. Dès qu'il y a un doute, les services tapent. Donc, si on repère quelqu'un qui, sur Internet, dit aujourd'hui, je vais attaquer une synagogue demain, ben, dans la soirée, il est arrêté. C'est ça qui a changé.
Alors, on dit que la menace est tout de même toujours élevée, Claude. On est à 3 sur 4 en termes de LOCAM. Mais visiblement, c'était peut-être plus des cellules structurées aujourd'hui et plus des acteurs isolés, pardon, des cellules structurées il y a 10 ans et des acteurs isolés aujourd'hui. Est-ce que c'est ça aussi qui rend plus difficile la prévention?
Alors, ce qui rend plus difficile la prévention, c'est effectivement le fait qu'aujourd'hui, on a des acteurs isolés, beaucoup plus d'acteurs isolés, enfin, pas plus d'acteurs isolés qu'il y a 10 ans, mais presque uniquement, plus exactement, des acteurs isolés, donc fatalement plus difficile à repérer. On a des gens qui se radicalisent très vite, on a des gens qui passent à l'acte quelques semaines, quelques mois après s'être radicalisés, ce qui était quand même beaucoup plus rare il y a 10 ans. On a des gens qui, on a des déséquilibrés, alors qui vont agir sous le coup de la propagande, par effet d'entraînement, etc., mais qui, par définition, comme ils sont déséquilibrés, sont impossibles à prévoir. On ne sait pas quand un fou va décider de passer à l'acte. Cela étant, il ne faut pas être trop rapide quand on dit qu'il n'y a plus d'attentats structurés en cellules, parce qu'il y a quand même eu des cellules qui ont été démantelées. Entre autres, en France, il n'y a pas encore très longtemps, il y a quelques mois, on a démantelé une petite cellule familiale, très petite, hein, deux, trois personnes, qui voulaient attaquer, c'était une synagogue ou l'ambassade d'Israël. Il y a 2 ans, on a démantelé une cellule franco-belge d'adolescents, deux de chaque côté, deux en France, deux en Belgique, qui voulaient attaquer l'ambassade d'Israël à Bruxelles. Et puis, bien entendu, le meilleur exemple, c'est juste avant les Jeux Olympiques, avant la cérémonie d'ouverture, il y a eu tout un réseau de l'État islamique au Khorassan qui a été démantelé en Allemagne et un peu en Belgique. Il y a eu une arrestation en Belgique. Là, ils étaient 13 quand même. Donc, on était vraiment en face d'un vrai réseau. D'ailleurs, à l'époque où il était ministre de l'Intérieur en France, Gérard Darmanin avait dit: faites attention, le risque d'attaque en réseau et en réseau transnationaux est en train de revenir. Et il a raison.
Qu'est-ce que vous dites, Claude, du travail du Centre international de lutte contre le terrorisme en Belgique? Est-ce qu'il fait bien son boulot? Est-ce qu'il gère bien la menace?
Qu'est-ce que vous appelez le Centre international de lutte antiterroriste?
Je sais pas, c'est Thomas Bernard, Thomas Renard, il se dit directeur du Centre international de lutte contre le terrorisme. Et visiblement, il parle dans plusieurs médias belges, mais moi, je n'étais pas au courant de ça, donc c'est pour ça que je vous demandais, Claude.
Oui, enfin, savoir de ma part, Thomas Renard est un académique qui est au centre Egmont, donc ça doit être un centre de recherche, c'est pas du tout un centre opérationnel.
D'accord.
Alors, est-ce qu'il y a des collaborations entre lui et les services de police et de renseignement? C'est possible, les experts sont parfois appelés en consultation, mais il n'a pas de rôle opérationnel dans la lutte contre le terrorisme.
Alors, en France, on parle de fichiers S. En Belgique, comment c'est les gens qui sont surveillés par la sécurité nationale, Claude?
Ben, c'est le fichier de l'OCAM donc, qui recense les personnes dangereuses, hein, quelle que soit leur tendance. Leur tendance, les extrémistes susceptibles de passer à l'acte. Il y en a évidemment beaucoup moins qu'en France. En France, alors la fiche S d'ailleurs n'est pas le meilleur exemple parce que la fiche S, il faut jamais oublier, tout le monde parle de la fiche S parce que c'est une belle image, mais la fiche S, c'est un instrument de recherche. C'est-à-dire qu'en fait, elle sert à quoi? C'est un instrument de signalement qui fait que si vous passez une frontière dans un aéroport, par exemple, une frontière où il y a un contrôle physique, ou si vous êtes contrôlé en voiture parce que vous avez fait un excès de vitesse et que la police vous arrête, ils verront sur leur terminal que vous êtes fiché S. Et là, il y aura une série de questions qu'ils devront répondre. À quelle heure avez-vous été arrêté? Ou à proximité ou pas d'une cible potentielle? Qui était dans la voiture? Ce genre de choses-là. Et ça s'arrête là. Le vrai fichier en France, enfin le fichier le plus important, c'est le fichier des personnes recherchées, des personnes, pardon, des suspects de radicalisation à des fins terroristes. Et là, on a 25 000 personnes qui sont essentiellement des islamistes radicaux, mais pas seulement. Et sur ces 25 000 personnes, il y en a 4 à 5 000 qui sont considérés comme ce qu'on appelle le haut du spectre, donc des gens susceptibles de passer à l'acte assez rapidement, ce qui est énorme. Ça dépasse de très très loin les capacités de surveillance de n'importe quel service. En Belgique, on est au dixième, on est à quelques centaines de personnes qui sont jugées relativement dangereuses ou très dangereuses.
Oui, on parlait de 555 exactement en
C'est
suivi
ça.
prioritaire en 2025, avec 86% d'entre eux qui étaient des extrémistes islamistes. On n'est pas tellement étonné. Pour finir, Claude Moniquet, le patron de l'OCAM, disait qu'un attentat était toujours possible, que la menace était grave. Est-ce que finalement on a beaucoup progressé en 10 ans ou pas tant que ça?
Alors, on a progressé, on a des lois plus dures. Si on en reste à la Belgique, par exemple, grâce au travail à l'époque du gouvernement de Charles Michel, de la coalition MR-NVA, on a eu la possibilité, par exemple, de faire voter les perquisitions jour et nuit pour des faits de terrorisme. Jusque-là, il fallait attendre, comme pour n'importe quel crime ou délit, il fallait attendre 6 heures du matin, parce qu'entre 9 heures du soir et 6 heures du matin, il fallait pas surtout réveiller les terroristes ou les empêcher de dîner entre amis ou en famille. Ça, c'est terminé. C'est une très bonne chose. La police belge est également beaucoup plus proactive. Comme je le disais tout à l'heure, il y a un doute, on tape dedans. Tout ça, ce sont des progrès qui sont incontestables, mais il reste effectivement, le patron de l'OCAM a raison, que la menace terroriste, par définition, comme elle est multiforme, comme elle peut s'exprimer par un réseau ou par une personne isolée ou par un démon isolé ou par une toute petite cellule familiale impossible à pénétrer, effectivement, la menace terroriste est toujours là. Un attentat, alors je veux faire peur à personne, mais on peut ne pas avoir d'attentat pendant des années, hein, comme on peut avoir un attentat ce soir. Et personne n'est capable de le... Sauf que si on a de la chance, et si le travail est très 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 bien fait, et habituellement il est bien fait, personne ne peut le prévoir.
Pour finir, Claude Moniquet, les militaires dans la rue, ça peut aider à faire moins d'attentats?
C'était une vieille demande du MR et de la NVA, à laquelle l'aile gauche du gouvernement, c'est-à-dire comme d'habitude les engagés et le CDNV s'opposent pour des raisons qui ne sont pas d'une clarté biblique, mais c'est leur problème et leur conscience et leur perception du risque. Oui, c'est une bonne chose, bien entendu. C'est une bonne chose pour une raison simple. C'est une présence qui est... Alors, l'armée ne va pas empêcher un attentat, mais sa présence est quand même dissuasive, premièrement, et puis surtout, ça libère du personnel de police qui, lui, a des capacités judiciaires que l'armée n'a pas et qui donc peut être employé à autre chose qui correspond plus à sa fonction. Mettre devant en garde statique devant une synagogue, une église, une ambassade, une mosquée, un ministère, un policier qui a une capacité judiciaire, c'est une aberration.
Eh ben, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Merci beaucoup, Claude Moniquet, d'avoir été avec nous ce matin pour répondre à la question du jour. Bonne journée à vous, à très vite.
Merci Lise, à bientôt.